Tout de suite, le rendez-vous.
Fin du 19e siècle, un simple jardinier de Boulogne, meunier, invente un nouveau matériau, le ciment armé ou béton.
C'est casse-gueule. C'est ce que t'aimes. Ça serait n'importe qui d'autre, je dirais, oh là là.
L'architecture du fer a vécu. Celle du béton, comment?
Ça va être super.
Elle apportera une véritable révolution dans l'art de bâtir.
Visite de chantier et de musée ce soir dans le rendez-vous sur France Culture. Il sera question de monstres, de voix, de béton, de censure, de théâtre et même d'Hitchcock. Avec Rudy Ricciotti qui signe Le béton en garde à vue, un manifeste d'architecture en forme de pièce de théâtre judicio-policière, Manu Farine.
L'ivresse est utile, surtout quand il s'agit de celle du béton. La preuve par le théâtre pour un hymne au béton et possiblement à la désobéissance.
19h30, la chronique revue et corrigée de Thomas Clerc. Et 19h35, un plateau monstre avec Antoine Barraud qui réalise Le dos rouge, un film travaillé par le dédoublement des cinéastes, des actrices, des films, pour un cinéma placé sous le signe d'Hitchcock et du syndrome de Stendhal, Émilie Chaudet.
Un cinéaste qui, du court au long métrage, du documentaire à la fiction, tente une approche du monstrueux, une connaissance par les gouffres.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Svez.
I'm Renzo Piano. I'm the architect together with the building workshop of the Whitney Museum of American Art. Art is an emotional experience. As an architect, what you have to do is to create a place where that emotion becomes more intense.
Hello Zoé Svez.
Hello Laurent Goumar. Hello to all of you.
C'est votre son du jour.
C'est la voix de l'architecte italien Renzo Piano qui évoque le travail qu'il a réalisé au Whitney Museum de New York qui rouvre aujourd'hui ses portes après une longue mue puisqu'il était fermé depuis octobre 2014. C'est l'un des plus fameux musées new-yorkais juste après le Met et le MoMA, mondialement connu pour sa collection d'art contemporain et qui avait pris avec les années beaucoup d'envergure. Et son bâtiment inauguré en 66, conçu par l'architecte Marcel Breuer sur Madison Avenue, ne lui convenait plus. Le musée a donc déménagé, toujours en restant à Manhattan, mais cette fois dans le West Village. Le nouveau bâtiment a donc été conçu par Renzo Piano, qui double largement l'espace, puisqu'il passe de 8000 m² à 19000 m². Renzo Piano l'expliquait là, il a voulu un espace où l'on peut se perdre en se laissant aller totalement à l'émotion générée par l'art, et pourvu surtout d'un système de terrasses extrêmement complexe qui permet de parcourir intégralement le bâtiment tout en restant à l'extérieur.
Merci Zoé Svez pour ce premier mai. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end?
Je vais travailler.
Très bien, parfait. Tout de suite, eh bien, le journal de la culture se poursuit le vendredi avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour commencer, c'est votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Eh bien, ce jour de fête du travail, j'avais envie de vous parler de séries télé et de monde professionnel. Et dans l'actualité des séries aux États-Unis, il y a ça.
Hi. I'm Lee Zlotoff, the creator of MacGyver. We're looking for you to help us create a new TV show about a female hero that embodies the kind of engineering skill sets that MacGyver had.
C'est un message de Lee Zlotoff, créateur au milieu des années 80 de la série MacGyver, ingénieur et agent secret spécialiste du couteau suisse. Eh bien, Lee Zlotoff...
Et du lipstick, hein, parce qu'avec un rouge à lèvres, il fait une bombe.
Il n'y avait que ça pour... avec vous pour remarquer ça. Bon, Lee Zlotoff, comme on l'entendait en ouverture, vient de lancer via sa propre fondation un appel à projet qui se clôt aujourd'hui. Une information qui a interpellé ma correspondante de San Francisco, l'universitaire et spécialiste de série Séverine Barthes. Alors, avant de revenir sur cet appel à projet, retour sur sa fondation, la Fondation MacGyver. On écoute Séverine Barthes.
Alors la Fondation MacGyver est une institution qui a été créée à l'initiative de Zlotoff, le créateur de la série télé MacGyver, qui est lui-même non seulement un producteur, mais aussi ce qu'on appelle aux États-Unis un maker, c'est-à-dire quelqu'un qui a un atelier chez lui, qui bricole, bidouille, invente des trucs, customise ses appareils, qui est d'ailleurs un des collaborateurs réguliers du magazine Make, qui est un peu le magazine de bricolage amélioré aux États-Unis de référence. Et il est parti du principe que beaucoup de jeunes gens, regardant MacGyver dans leur enfance, étaient par la suite devenus ingénieurs totalement admiratifs de ce qu'était capable de faire MacGyver dans les épisodes. Partant de ce principe, Zlotoff a créé la Fondation MacGyver, qui donc promeut le fait de s'inscrire dans des formations d'ingénieurs, puisque les États-Unis font face à depuis longtemps, mais encore plus ces dernières années, à un très gros problème de recrutement, puisqu'il y a peu de jeunes gens qui s'inscrivent dans des formations d'ingénieurs.
Donc la dernière idée de Lise Lotoff, le MacGyver de la production télé, eh bien, c'était de lancer un concours afin de dénicher la nouvelle série de demain. Explication et mise en perspective, toujours par Séverine Barthes.
La dernière idée en date est de trouver ce qu'ils appellent « the next MacGyver », donc le prochain MacGyver, ce qui ne doit pas être une copie de l'ancien MacGyver. Leur idée est de dire que l'un des moyens de faire augmenter le nombre d'ingénieurs formés aux États-Unis est de motiver les jeunes filles à s'inscrire dans de tels cursus, puisque dans les pays développés de manière générale, on sait bien qu'on a un problème du nombre de filles inscrites dans les cursus scientifiques et les cursus techniques. Les séries télévisées américaines, depuis très longtemps, ont une sorte de rôle prescripteur, donc urgence et les métiers médicaux. Dans ces cas-là, le but affiché n'était pas forcément de créer, par exemple, un renouveau d'inscription dans les disciplines médicales, mais d'abord de faire une très bonne série médicale. Et c'est un peu un effet induit. En revanche, depuis au moins 30 ans, aux États-Unis, on peut utiliser sciemment la télévision pour faire passer des messages sociaux. À partir de là, ils ont fait un appel à un projet de série télévisée. Série qui montre des femmes qui sont ingénieurs ou qui bricolent, et cela dans tous les genres possibles. On peut imaginer des sitcoms, des comédies, de la science-fiction, du drama plus classique, pourquoi pas de l'espionnage comme le MacGyver original, mais aussi tout plein d'autres genres.
Alors Laurent, si vous aviez envie de participer à ce concours, c'est trop tard. C'est le dernier jour aujourd'hui pour déposer votre projet. Et comptez sur moi et sur Séverine Barthes pour suivre le dossier.
Et l'on poursuit tout de suite ce supplément week-end avec votre brève revue de l'actualité culture et médias de la semaine passée. Lundi ?
Eh bien lundi, c'était 7 ans après des roses et des orties. De nombreux journaux ont relayé l'actualité musicale de ce début de semaine, soit la sortie d'In Extremis, le nouvel album de Francis Cabrel. Et si l'on en croit le Figaro, cet album rassemblerait, je cite, les différentes facettes du chanteur, le sensible amoureux, l'observateur désabusé, le passionné d'histoire. Interrogé par Olivier Nuc, Francis Cabrel défend la langue française en évoquant les langues régionales. Notre langue française, dit-il, court aujourd'hui le même risque que l'occitan, le breton ou l'alsacien. Les chanteurs français chantent à moitié en anglais. Le faire dans notre langue, c'est presque de la résistance.
Mardi, c'était des kiosques à Paris.
Oui, le quotidien La Croix revenait sur la décision de la mairie de Paris de redonner vie aux kiosques parisiens pour en faire à nouveau des lieux de spectacle et de fête. 34 kiosques vont être rénovés afin d'y accueillir musique, danse, théâtre, marionnettes, démonstrations et pratiques sportives.
Mercredi, c'était comédie.
Oui, en une des pages culture du Monde, Thomas Sautinel signait mercredi une enquête sur la comédie, un genre majeur du cinéma français. Pour cet article, qui revient entre autres sur les rapports compliqués entre la critique et la comédie, le journaliste a interrogé Éric Lartigot, le réalisateur de La Famille Bélier. « Il y a une rigueur technique particulière à la comédie, dit-il. Or, le regard qu'on porte sur elle est à la fois plus critique et moins attentionné quant à la partie technique. » Et d'ajouter « Une scène drôle à l'écriture et au tournage ne le sera plus au montage. Il suffira d'ajouter un plan d'exposition juste avant pour qu'elle le redevienne. C'est une mécanique très curieuse. » Fin de citation.
Et aujourd'hui, vendredi ?
Eh bien aujourd'hui, c'est Chinese Monthly. Le New York Times, dont le site internet est bloqué en Chine, lance aujourd'hui, 1er mai, un mensuel en chinois et diffusé à Hong Kong et Macao, et qui comprendra des articles sur l'actualité internationale et locale. Baptisé donc Chinese Monthly, ce mensuel de 24 pages sera diffusé à 50 000 exemplaires dans les aéroports, les gares et les kiosques.
Merci, eh bien, je vous souhaite un bon week-end à vous aussi.
Merci. Et en attendant, on peut réécouter tout le week-end si on veut ce journal de la culture et puis 1000 jours encore.
Très bien, tout de suite on retrouve nos invités du rendez-vous, Rudy Ricciotti et Antoine Barraud.
Le rendez-vous.
Fin du 19e siècle, un simple jardinier de Boulogne, meunier, invente un nouveau matériau, le ciment armé ou béton. Solide, étanche, incombustible, le béton d'abord dédaigné par les architectes français, effrayé par sa simplicité, ne trouvera sa première application que 30 ans plus tard et ne recevra sa consécration qu'une dizaine d'années après grâce aux frères Perret. Ceux-ci comprennent les premiers qu'avec le béton, l'architecture doit s'orienter vers une harmonie nouvelle, vers des constructions plus sobres, plus pratiques. L'architecture du fer a vécu, celle du béton commence.
Plateau garde à vue avec vous, Rudy Ricciotti, architecte, un parcours radical qui commence au milieu des années 80. On vous doit le Stadium à Vitrolles, le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, la passerelle de Séoul en Corée ou encore le MUCEM à Marseille et plus récemment le mémorial du camp de Rivesaltes. En 2013, vous aviez signé « L'architecture est un sport de combat » et vous récidivez aujourd'hui avec « Le béton en garde à vue, manifeste architectural et théâtral aux éditions Le Mieux ». C'est un plaidoyer pour le moins combatif pour le béton qui prend la forme toute particulière d'une pièce de théâtre en 3 actes. Vous y mettez en scène un capitaine de gendarmerie, des policiers, une juge et bien sûr l'architecte qui est coupable avant d'être jugé, sommé de s'expliquer sur l'utilisation du béton. Qu'est-ce qui justifiait cette fois le recours à la forme théâtrale pour vous ?
L'envie d'en rire davantage. Et puis je trouve qu'il y a dans la forme théâtrale peut-être l'ultime expression politique sur des sujets de société qui nous préoccupent au quotidien, notamment celui de raconter comment l'énergie du travail, comment sa métaphore, comment sa chair, comment sa mémoire, comment elle peut-elle se pétrifier dans l'ordre du quotidien. Ça parle de ça. J'ai du plaisir aussi à travailler une matière extraordinairement sensuelle qui finalement n'est coupable qu'aux yeux des autres. Et je veux juste rappeler quand même que l'économie de la construction tire l'économie française vers le haut et tire également, défend des emplois territorialisés. C'est peu, mais juste vous dire aussi que peut-être nous tous nous en vivons, et vous aussi, grâce à cette économie territorialisée. Donc faire ce procès à ce monde du béton, c'est quand même une figure un peu obscène. Alors je l'ai traité avec pas mal d'humour, et je crois d'ailleurs que ce livre se vend très très bien. Vous avez bien souri.
Plutôt souri à plusieurs, ouais, d'ailleurs on lira, ouais, un passage tout à l'heure. Ouais. Est-ce que monter sur scène et pourquoi pas interpréter l'architecte, ça pourrait vous tenter, comme Alain Badiou par exemple, qui va prochainement jouer le second procès de Socrate, qui va diffuser le 10 mai sur France Culture. Est-ce que le passage sur scène serait une tribune supplémentaire pour vous, Rudy Ricciotti?
Je suis capable de tout. Je suis un vrai psychopathe. Et puis j'aime tellement les mots, la querelle verbale, vous le savez. Je peux pas dire qui, mais il y a 2 scènes de théâtre française, ouais, nationale, qui étudient la pièce déjà.
Et pourquoi vous ne pouvez pas dire qui ?
Non, parce que c'est pas décidé, donc je peux pas le dire, mais il y en a 2.
Voilà. Avec des metteurs en scène que vous respectez ?
Ah oui, bien sûr, oui, des gens tout à fait respectables.
Qui, par exemple ?
Non, je peux pas le dire.
J'ai tenté par tous les coins. Hein.
Non, je peux pas, c'est pas loyal, voilà.
Mais il ferait appel à vous pour jouer l'architecte ?
Non, pour l'instant, non, c'est hors sujet, voilà.
Manu.
Alors on va revenir au sujet le béton, hein, qui s'est imposé assez vite chez vous, Rudy Ricciotti. Quelle presse a le béton tel que vous l'envisagez quand vous démarrez, disons, au milieu des années 80, vers 85-86? Entre quelles mains se trouve le béton à ce moment-là en architecture?
Toujours entre les mains du diable et de la figure monstrueuse. Voilà.
C'est un clé d'œil à notre autre invité.
Évidemment, le monstre, c'est celui qu'on aime, comme le diable. Mais moi, j'ai très vite choisi la figure, l'intelligence, la matière, la mémoire du béton, parce qu'elle est rock, elle est rock'n'roll. Vous savez, moi, je supporte pas le R&B, je supporte pas le rap, j'aime que le rock, c'est comme ça.
Vous n'aimez pas le rap?
Non, pas tellement. Si, IAM, oui.
Oui, quand même, Marseille.
Oui, mais ce ne sont pas les commerçants du rap, hein, d'accord? Ce sont des vrais créateurs. Mais il y a dans le rock une épaisseur... Il y a du béton. Vous voyez, le rock est cimenté par quelque chose, par une espèce de cohésion interne extrêmement positive. C'est positif. Et le béton positif, je trouve.
Et quel était le regard qu'on portait sur le béton dans les années 80, au moment où vous-même, vous commencez?
Je pense un regard moins idiot qu'aujourd'hui.
Ah oui?
Oui, plus intelligent, probablement. Aujourd'hui, le béton, c'est la figure de Quasimodo. Mais c'est aussi, par exemple, la figure d'une ville comme Marseille, sur laquelle on crache sans cesse, et qui, un jour, vous regarde avec un petit sourire, et un peu ému, parce qu'un peu de tendresse s'adresse à elle. Regardez, par exemple, le Muséum à Marseille. Ce n'est que du béton. Regardez l'image de tendresse, d'onirisme, de sympathie populaire que le Muséum dégage. Ce n'est que du béton. Vous voyez, la malédiction peut s'éloigner aussi. Il s'agit seulement d'y mettre les mains.
Avec ce dispositif théâtral, policier et judiciaire, vous retrouvez une idée déjà présente dans le film que Laetitia Masson vous avez consacré il y a 2 ans. Vous y parlez de la responsabilité de l'architecte et de l'architecture face au site et du même coup de sa culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que la culpabilité est inséparable du geste architectural, Rudy Ricciotti?
Parce que l'architecture est malade historiquement de la difficulté existentielle. C'est une question qui est longue portée et qui est périphérique à la question du passage à l'acte architectural. C'est la difficulté existentielle de l'architecture. Voilà. C'est comme ça. On peut rien y faire. C'est toute une histoire de l'architecture qui dépasse d'ailleurs complètement l'architecte, le constructeur, l'ingénieur. C'est une réalité à laquelle on est confronté, sur laquelle on n'a pas forcément de réponse. Vous savez, lorsque je fais le Mucem...
À Marseille, oui.
À Marseille, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et je me dis... Mais la Méditerranée me regarde de manière obsédante. J'ai peur. Et d'ailleurs, j'ai toujours peur dans ce métier. Je suis un architecte trouillard, hein, malgré ma taille un peu... Bon.
Carrure.
Oui, voilà, merci. Mais En face de moi, cet horizon de la Méditerranée, qui est totalement métaphysique, qui envoie des messages mystiques, des messages anxiogènes, avec des couleurs violentes, qui chantent toute la journée, sous le vent, sous le soleil couchant, etc. Rouge, bleu acier, bleu nuit, argent, etc. Rend un peu fou. Et que lorsqu'on est un peu en face, convoqué à un regard sur un territoire, et qu'il faut passer à l'acte, c'est-à-dire que creuser un trou dans la terre, faire une plaie dans le sol, écouler du béton, on se retrouve dos au mur. On est culpabilisé. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des histoires que l'on puisse partager avec l'histoire et la mémoire de la Gabardie. Parce que le film, lui, il est chanceux. Le film, il est irréversible, mais on peut aussi l'oublier. Mais le béton, non. Il est là. Il reste. Il demeure. Pour toujours. Donc, voyez un peu dans quelle anxiété nous sommes.
Antoine Barreau, comment vous regardez ce plaidoyer, cette fois-ci, pour le béton et non pas ce réquisitoire? Comment vous comprenez tout ce qui vient d'être dit? Puisqu'il y a des clins d'œil qui sont appuyés de votre côté avec l'histoire du monstre, l'histoire même d'un film.
Bah moi j'aime évidemment l'esprit rock, hein. C'est sûr que c'est quelque chose qui me parle. De toute façon le monstre, moi je l'aborde exactement sous le même angle, c'est-à-dire celui de l'affection. C'est du pur affect, de la pure, c'est de l'émotion pure de toute façon ce rapport-là. Moi j'ai un rapport très lointain à l'architecture, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je pense à Gordon Matta-Clark, vous voyez, dont les œuvres étaient de percer des trous ultra violents dans des immeubles. Et je trouve ça très beau parce que c'est en plus il a écrit un livre d'entretien qui est très beau aussi et je sais pas, il y a quelque chose qui devient complètement onirique aussi et qui, je me souviens avoir aimé le béton la première fois par David Lynch aussi, quand on voit sa maison dans Lost Highway, etc., où, et puis après on a su que c'était sa vraie maison, qu'il habitait vraiment dans cet univers de béton, et c'était un des premiers je crois à vraiment assumer le béton comme quelque chose d'absolument beau, d'absolument noble.
Vous vivez dans quel univers d'ailleurs, Rudy Ricciotti?
Moi je vis dans des cabanons en pierre que j'ai restaurés, voilà. Quand je dis « des » parce que j'ai une pièce séjour et puis j'ai une chambre dehors, je suis obligé de passer dehors pour aller dormir, vous voyez, c'est un peu...
Et un cabanon un peu à la Corbusier, c'est ça?
Non, pas du tout, non, ancienne construction de fin 19e, début 20e, années 50 que j'ai restauré, voilà, mais un paradis, d'ailleurs moi je suis au paradis, bon. Mais vous citez Gordon Matta-Clark, c'est marrant, vous avez cité Salomon Vitrolles, une des premières œuvres importantes, les trous de caisse étaient totalement défoncés comme si on les avait cassés à coups de masse. Ouais. Et ça faisait, et c'était une référence à Gordon Matta-Clark, l'idée de la transgression, du passage au travers d'eux.
De fracturer un mur,
de libérer un autre univers, etc. Donc c'était, j'avais fait référence, c'était à l'époque où j'étais très très référencé, c'était 1990, à cette époque, je faisais une architecture cultivée.
Ça s'est arrêté quand?
Ah, mais ça s'est arrêté après.
Pourquoi?
Progressivement, parce que j'ai sombré dans un maniérisme provincial, petit bourgeois réactionnaire. Voilà. Et oui, mais j'adore me répéter et dire que, vous savez, aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul rêve esthétique, c'est le maniérisme, et un seul rêve politique, c'est de fabriquer des bâtiments avec un coefficient d'emploi le plus élevé possible. Or, pour le défendre, il faut un coefficient de pensée structurelle, mathématique, et de synthèse scientifique le plus élevé possible pour produire un coefficient d'emploi le plus élevé possible. C'est ça le paradoxe de l'économie de la construction.
Manu.
Alors, la pièce de théâtre Rudy Ricciotti est évidemment l'occasion de longs monologues sur le mode du manifeste, comme vous les affectionnez.
Dites shakespearien, ça me fera
plaisir. Tout shakespearien, si vous voulez, tout y passe, hein, donc, y compris vos problèmes personnels avec la destruction d'un pigeonnier, le minimalisme, l'acier, les pourfendeurs, un culte du béton, l'administration, les écologistes auxquels vous opposez donc cette hymne au béton. Coupable idéal, écrivez-vous, un diable déguisé en Quasimodo qui travaille trop les consciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles questions le béton nous pose-t-il?
D'abord des questions politiques. Comment une société fait-elle pour refuser de pétrifier les formes qui l'abritent? Voilà. Vous savez, j'ai fait un projet pour une église Notre-Dame-du-Lot. À un moment donné, on était à un concours, j'étais invité d'autres architectes, et j'ai fait une église souterraine, en béton, encastrée dans la masse. Et j'ai perdu ce concours, puisque le projet qui a été retenu est un projet en bois.
J'avoue que là, aucune chance.
Non, mais là, oui, mais c'est en bois. Et c'est marrant de voir, et pourtant c'était un évêque qui dirigeait le jury, de voir combien, maintenant, même l'église refuse de pétrifier les formes et la syntaxe de sa propre culture religieuse. Comme si elle avait peur du béton. On se met dans le bois parce qu'il y a une réversibilité, etc. Alors, on peut y voir un regard environnemental. Moi, je crois que c'est surtout un regard d'une société qui n'a plus de croyance sur elle-même. Voilà. Qui est dans une perte de croyance. Et d'ailleurs, le gendre idéal aujourd'hui, il est green, cycliste, végétarien, non-fumeur.
Voilà. Et il fait des sols en béton ciré.
Il fait des sols en béton ciré, voilà. Et puis bon, voilà, il fait du cocooning. Mais pourquoi pas, je suis d'accord. Mais écoutez, ce n'est pas une solution esthétique quand même. Il nous faut conserver des romances. Et je pense qu'une des romances, c'est cette brutalité apparemment singulière du béton qui est en fait, de manière générique, sa sexualité.
Quel discours ?
Extrêmement sensible, extrêmement érotique, extrêmement poétique.
Quel discours vous vouliez tenir en faisant une église souterraine ?
Ben, l'idée d'abord de l'enfouissement, de disparaître d'un territoire, mais elle n'était pas totalement souterraine, mais bon, elle venait à l'altitude, à la toiture du terrain, ouais. Dans les Alpes, et puis il y avait une grande, gigantesque fenêtre de 70 mètres carrés face aux Alpes, aux montagnes enneigées. Donc il y avait la révélation d'une sacralité, et surtout en même temps, de rappeler la pétrification des efforts, comme les moines construisaient au XVIIIe et au XVIIe et au XVIe et au XVe avec leurs mains, avec la pierre, construisaient des lieux de culte. Il y avait cette idée de revenir à cette minéralité. Voilà, c'est une concrétion physique, presque pour dire la physicalité comme réponse au désir spirituel.
Retour au commissariat, parce que l'architecte dans la pièce de théâtre entre au commissariat, il est envoyé dans une salle pour être interrogé, et le policier Zéro lui indique le chemin à prendre, moyennant un itinéraire assez complexe et totalement irrationnel. Je vais lire un passage. Deuxième étage, à droite en sortant de l'ascenseur, fond du couloir, vous tournez à droite, puis prenez l'escalier. Au palier, vous poussez la porte, faites 30 mètres, tournez à gauche, passez le sas, traversez la zone des archives, etc. etc. Et ça finit par « Si vous êtes perdu, revenez, je vous ferai un plan ». Un commentaire sur l'architecture des commissariats, au-delà même de la dimension burlesque qui est dans le texte. Et est-ce que ça pourrait vous intéresser?
Écoutez,
de construire
d'abord,
un commissariat.
Oui, parce que je suis un ardent républicain et j'ai beaucoup d'estime pour les forces du ministère de l'Intérieur. Je voudrais juste rappeler que nos policiers sont en danger quotidiennement et très mal payés. Beaucoup moins que nous tous ici autour de cette table. Article 1. Et deuxièmement, sont des gens extrêmement respectables. Après, la question des commissariats, c'est monstrueux. On dirait des lieux de la Securitate roumaine. Faut voir quand même. Enfin, j'ai vécu ça, c'est terrifiant, c'est kafkaïen. Voilà, et puis alors, j'en ai profité pour rire un peu, quand je dis, si vous n'avez pas compris, revenez, je vous ferai un plan. Vous savez, on le dit souvent, j'ai pas mal de dire à l'architecte, je vous ferai un plan, pour vous retrouver dans ce dédale invraisemblable d'un commissariat de police. Mais le commissariat de police est souvent un résidu d'espace. C'est pas un lieu qui est consacré dans sa dignité républicaine pour être un commissariat de police. Il est souvent un lieu réaffecté, un lieu abandonné. On n'a pas trouvé d'usage particulier pour un lieu un peu pauvre, extrêmement pauvre, alors on en fait un commissariat. Je trouve ça assez accablant. Voilà.
Elsa, qui a une question pour vous.
Dans votre livre, vous dites que l'architecture est une démarche d'auteur. Vous prenez le cas de la Samaritaine à Paris et vous racontez les difficultés que rencontre ce type de projet en France, la justice ayant un rôle de censure dans la créativité des architectes. Quels sont les pays ou les villes où vous avez le sentiment qu'il y a une liberté architecturale encore ?
Enfin, d'abord, la France est un pays libre. C'est un pays où les architectes sont parmi les meilleurs au monde. C'est comme la médecine. Il y a des entreprises qui sont les meilleures. Que ce soit clair, il y a des situations pires que la France. Et en Europe. Et en Europe de proximité, et même dans des pays beaucoup plus riches que nous en termes de PNB. Que l'interprétation soit très claire.
Ça, c'est une mise au point. Ensuite. Voilà.
Deuxièmement, vous parlez de la Samaritaine. Je voudrais juste aller à la chute. Vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout de la lecture, puisque je mets en cause le juge, je ne me souviens pas, qui a planté le permis de construire de la Samaritaine, lequel permis a été validé par des experts. L'architecte voyer de la ville de Paris, l'architecte des bâtiments de France, le conseil municipal, les élus, etc. C'est extraordinaire. Et voilà un juge qui, pour la Samaritaine, décide seul que ce projet n'est pas intégré à sa perspective historique. Et là, on n'est pas sur du factuel juridique tel peut être des interprétations d'articles du PLU, mais une vision subjective. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, imaginez qu'on fasse pareil et qu'il y ait donc des comités de censure pour les cinéastes. Parce que la figure du monstre, par exemple, n'est pas acceptable, n'est pas politiquement correcte. Faire l'éloge de la laideur est un principe critiquable. Ou faire l'éloge de la monstruosité comme sentimentalisation du regard et serait absolument critiquable. Donc, si on passe votre film, le dos rouge, on passe entre les mains de ce juge, je vous dis, vous allez au trou. Vous y avez droit.
Manu.
On l'a entendu, Rudy Ricciotti, tout à l'heure, hein, votre vocabulaire est pour le moins sexué. En tout cas, quand vous parlez du béton et d'architecture, vous parlez de la charge érotique des ouvriers de chantier, vous traitez les profondeurs du béton d'âme émasculée ou encore de moralisme de braguette.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire de votre vision de l'architecture et peut-être même plus spécifiquement du béton que d'utiliser un vocabulaire aussi sexué?
Parce que je pense qu'il y a des mots...
Enfin, sexuel et masculin, hein, plus précisément.
Oui, oui, mais j'ai une énorme... Moi, j'ai un côté féminin, quand mon travail est totalement féminin, attendez, vous le savez. Je fais pas une architecture de...
D'hérésie.
Paramilitaire, quand même, elle est extrêmement sophistiquée, mon architecture. Donc, et en même temps, je tiens à dire que cette idée de sensibilité, de sensualité, elle est directement l'ombre portée d'une autre réalité qui est la culture des efforts du travail de la main et de la cervelle, avec un niveau d'ingénierie, de mathématiques extrêmement poussé pour arriver à des résultats sensibles. C'est-à-dire, en fait, c'est, il faut mettre la matière sous la dictature du raisonnement techno-scientifique et même sous la dictature des mathématiques pour lui faire révéler ce qu'elle a de plus tendre, de plus sensible.
Comme à tous nos invités depuis le début de la saison, on vous a demandé d'apporter un son qui vous a marqué et voici ce que vous avez choisi, c'est presque un commentaire de tout ce qui s'est dit. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. Parfois, on regrette vraiment d'être à la radio parce que là, Rudy Ricciotti vient de se lever, vient de danser et je crois qu'il est prêt pour la scène. Vous êtes prêt pour, vous êtes mûr pour aller sur une scène nationale. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre et la raison de ce choix pour vous?
Oui, ben, Sympathie Vaudeville, vous savez, les paroles de Mick Jagger, Rolling Stones, et permettez-moi de me présenter. Je suis quelqu'un de tout à fait fréquentable, j'habite des lieux tout à fait compréhensibles. Enfin, j'ai plus très bien les paroles, mais il y a l'idée d'une normalité derrière cet appel au diable. Voilà.
La raison pour laquelle vous l'avez choisi, qu'est-ce que ça dit?
J'adore ce morceau, je danse dessus depuis 30 ans.
C'est ce qu'on vient de voir. Manu, dernière question.
Vous citez dans la pièce de théâtre, hein, au tout début, vos premières cabanes en Camargue. Quel souvenir est-ce que vous en gardez?
Mais justement, des souvenirs érotiques. Je suis désolé.
Je vous en prie.
Je m'en rappelle, j'avais 10 ans, il y avait aussi des blocages, je rentrais dans les blocos. J'étais totalement émerveillé par la pénombre de ces blocos sur le sable. Cette solitude entre l'odeur de l'iode et puis l'ombre portée noire, très sombre du blocage. Je trouvais ça incroyablement sexy, voilà, je me rappelle. Voilà. Je me caressais à 10 ans dans les blocos, vous imaginez? Bon, ça fait pas de moi un fasciste quand même. Hein.
Non.
D'accord, bon, merci de pas me faire un procès, mais la cabane, c'est pas tellement l'éloge de la fragilité. Vous voyez, je trouve ça un peu simple. Tu sais, l'éloge de la fragilité, ouais. De l'humilité, c'est insupportable, l'humilité. Vous savez, cet éloge de l'humilité qui n'est que le masque de la vanité, comme dit William Blake, notre grand poète anglais.
Alors, si ce n'est pas
c'est
l'éloge...
un peu pénible, tu vois.
Alors, si ce n'est pas l'éloge de la...
C'est l'éloge de la sauvagerie, voilà, de la recherche de sauvagerie, de recherche de barbarie, mais une barbarie romantique, pas une barbarie sociale, bien évidemment, mais une barbarie esthétique, voilà. Et en même temps, c'est aussi une manière de refuser l'exil de la beauté, c'est-à-dire le lissage. Vous voyez, le lissage, on est tous confrontés à ça aujourd'hui, à l'exil de la beauté. Même dans la pensée, nous sommes confrontés à l'exil de la beauté, puisque la beauté est devenue suspecte, puisque la beauté est devenue la tribune de la scène bourgeoise. Voilà où nous en sommes. Quel trou.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Rudy Ricciotti, Antoine Barraud, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique de Thomas Clair. Ce soir, Thomas, à votre programme, la revue...
Milk. Eh oui, rentrez dans vos tipis. J'ai choisi cette semaine Milk Décoration, trimestrielle pour les tribus contemporaines, SIC, qui existe aussi en version pour enfants d'ailleurs, afin de couvrir le champ Total Look. Milk, qui veut dire lait, est donc consacré au beau. Amateur de boxe, passe ton chemin, lecteur de Charlie Hebdo, dégage. Ici, on ne vise qu'un seul but, l'harmonie, qui se décline de préférence dans des formes minimales et des tons crème, sur 170 pages de papier au grammage velouté. En témoigne dès la page 3, non pas une photo de pin-up, mais celle d'une femme en tenue lin blanc intérieur, en train de plier une serviette dans sa cuisine américaine. C'est une publicité pour Bult Aop, dans laquelle on voit, en dépit du bon sens, des livres jouxter la paillasse ultra clean. Car les couvertures des bouquins risquent de pâtir des particules graisseuses au bout de quelques repas. Mais l'ensemble reste aussi immaculé que les espadrilles de la maîtresse de maison. Faut donc avoir l'esprit bien mal tourné pour déceler la moindre faille dans cet univers décoratif que ne menace aucun crime. Milk est à l'avenant, un magazine fort agréable à feuilleter, et qui parsème ses intérieurs comme autant de belles bulles totalement isolées du monde social. La partie texte, ça n'étonnera personne, est ornementale. Les rubriques sont artificiellement séparées par des cloisons pleines pages aux teintes pastellisées, historiées par des citations d'experts. Pierre Paulin, Brancusi, Will Durand. Chercher l'intrus. Will Durand est un philosophe. Avec un nom comme ça, c'est à peine croyable. Je connaissais Aristote, je connaissais Nietzsche, je connaissais même Michel Clouscard, mais je ne connaissais pas Will Durand. C'est lui qui a dit « La famille est le noyau de la civilisation ». C'est peut-être pour ça que je ne le connais pas.
Peut-être pour ça, en effet.
J'ai cru à une blague, mais non, c'est un philosophe américain qui a écrit une histoire de la civilisation en 32 volumes.
De toute façon, ça semble dictionnaire de citations.
Enfin, en tout cas, c'est pas un canular. Hein. Il faut dire que Milk est un magazine résolument sérieux, comme tous les magazines de décoration d'ailleurs, ou d'architecture. La phrase de Will Durand ouvre le cahier Tribu, et en effet, on est ici dans un monde proche de la réserve indienne, plus que gauloise, ou plus exactement, scandinave internationale. Bref, on est chez soi dans l'entre-soi. Intérieur dépouillé, loft chiquissime, famille vintage, elle italienne, lui hongrois, leurs enfants s'appellent Alma et Tino, mais les tapis sont marocains. Les années 50 règnent toujours en maître, jusqu'à quand ? À propos, si vous n'avez pas d'argent, achetez du Louis XV, vous dériderez les antiquaires du marché Biron qui guettent les Japonais comme Nabokov guettait les papillons. Canapé Lipolin, lampe Rotaflex, mobilier scandinave réédité, Milk est résolument classique contemporain, comme le confirme le commissaire de la Biennale de Saint-Étienne, Benjamin Loyauté. À la question « Pouvez-vous m'en dire plus sur le thème de cette année, le sens du beau ?» il répond calmement, page 22, « Il s'agit d'un thème audacieux. Vous m'avez fait peur, aussi peur qu'un Danois dans un appartement. » Signe de l'esprit positif du magazine, le mot « up » ponctue toutes les nouvelles réalisations. Certaines sont réussies, hein, comme les poufs imprimés marbre Maurizio Galante, 392 euros pièce tout de même. Mais il n'y a pas de « down hein, », on n'est pas en train de lire Marianne ou les Nains Rock avec leur tendance en hausse, en baisse, finalement assez vulgaire. Le mauvais esprit n'existe pas, l'esprit tout court non plus d'ailleurs. C'est un monde nordique, avec des déclarations qui sentent un peu la motion de synthèse. Telles que « j'aime associer l'ancien et le moderne », page 56. Ah tiens, comme c'est curieux. Ou bien des phrases qui laissent sans voix. « Comment es-tu venu au design ?» Mes parents sont artistes. De fait, le monde proposé par Milk est homogène, ce qui n'empêche pas sans doute des luttes intestines terribles dans un milieu professionnel qui est constamment sous le signe de prix, de jury, d'espoir, de médailles et de jurés. Ce que confirme la décoratrice et architecte d'intérieur Caroline Sarkozy, qui a l'air d'être l'élément le plus brillant de sa famille. Les fautes de goût sont masquées par une mise en page sobre qui parvient à cacher, au cœur du magazine, les réalisations incroyables d'une designeuse qui se déclare très séduite par les Émirats. Effectivement, quand on tombe, page 64, sur son lit en albâtre, qui pèse plus de 500 kilos et ressemble à un mausolée pour partie fine, on se trouve soudain précipité du côté du faubourg Saint-Antoine, pour Claude Dalle.
Claude Dalle, oui.
Oui, Claude Dalle, oui, Claude bien nommé. Mais comme disait à peu près Frédéric Roux, les abrutis ne voient le lait que dans les choses laides. Milk est mignon, mais être à ce point déconnecté du social, c'est presque un chef-d'œuvre.
Merci Thomas, on se retrouve la semaine prochaine.
Le rendez-vous.
Ça devient quelque chose de très enivrant et ça devient juste un unique moment de danse.
C'est casse-gueule. C'est ce que t'aimes.
L'Atome Monstre avec vous, Antoine Barraud, cinéaste. Vous signez votre deuxième long métrage, Le Dos Rouge, une fiction qui se déploie autour de Bertrand Bonello, le cinéaste, que vous filmez en cinéaste, fasciné par la peinture et notamment par un motif, le monstre, et tout ça pour la préparation d'un film. Il est accompagné dans les musées par une historienne de l'art, Célia, qui est interprétée par Jeanne Balibar et par Géraldine Pellas, deux actrices pour un même rôle, comme un obscur objet du désir ou comme un souvenir du vertigo d'Hitchcock. Et puis au fil des jours, Bonello s'aperçoit qu'une tache rouge grandit sur son dos. Alors, ce motif du monstre, c'est pas la première fois qu'il apparaît dans votre cinéma. On le retrouve dans trois de vos courts-métrages. Qu'est-ce que vous cherchez à travers cette figure-là qui hante votre cinéma depuis ses débuts ?
Ce que je cherche, je le sais pas. En général, moi, j'aime bien faire un film justement quand je sais pas faire une phrase de ce que j'ai envie de faire. Si je savais faire une phrase, j'en ferais une phrase. J'aime bien justement ce moment où les mots manquent, où on est devant la falaise, là, le trou de ça. Je sais pas pourquoi cette émotion m'obsède, me ravage. Il y a quelque chose de sauvage et d'émotion et d'érotique d'ailleurs souvent dans ce genre de flash ou d'envie.
Alors quelle aura été la première image de monstre qui a pu vous marquer pour que ensuite ça définisse le cinéma?
Il y en a eu plein. Moi, j'aime tous les monstres. J'aime les monstres du cinéma de genre, j'aime les monstres de la littérature, j'aime les monstres de la peinture, évidemment. Bon, après, le monstre... moi, j'essaie de pas trop intellectualiser la chose, comme je vous disais. Après, j'ai beaucoup de retours. Après,
pourtant, le film ne se méfie pas non plus de l'intellect.
Non, mais il se méfie un peu de l'analyse, par contre. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit rester dans le... C'est à la fois un film où il y a beaucoup de paroles, beaucoup de mots. Moi, j'adore ça aussi. Et je pense que c'est aussi un film, par contre, dont le cœur peut échapper. Enfin, j'espère aussi. Quoi.
Bande annonce qu'on écoute tout de suite, retravaillée et trouée par notre réalisateur Thomas Beau.
Alors,
vous, ce qui vous intéresse, c'est un monstre inquiétant.
temps ou...
Non, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça.
Non, vous voulez le voir dans le tableau.
Pas forcément. Hein.
Pas forcément.
Alors.
Pas forcément de manière extrêmement claire, simple.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Il vous en faut qu'un seul.
Oui.
J'ai une tâche.
J'ai une tâche. Je sais pas trop ce que c'est. Ce qui m'inquiète, c'est que ça grandit. Bon, je sais que ça peut exprimer quelque chose de l'ordre de la somatisation. Hein. Je sais, maladie, littéralement le mal a dit. Je peux pas m'empêcher de penser à ça. Je comprends pas ce que je vois.
Vous avez envie d'aller avec moi?
Ben, je sais pas où vous allez.
Est-ce que vous avez besoin de savoir où je vais pour avoir envie d'aller avec moi?
Et toute cette fin, ça devient quelque chose de très enivrant et ça devient juste un unique moment de danse.
Tu me parles de ton truc comme si c'était extraordinaire.
C'est quelque chose qui m'intrigue.
Mais alors dis-moi ça. Dis-moi, je veux que tu regardes mon dos comme une œuvre et que tu trouves ça beau.
Alors Antoine Barraud, on a entendu dans la bande-annonce Bertrand Bonello que vous avez choisi comme héros de cinéma pour ce film. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour que vous ayez eu envie d'en faire cet acteur-réalisateur?
Déjà, j'essaie de pas prendre ça sous l'angle de il représente quelque chose. C'est pas mon affection pour lui n'est symbolique de rien. Elle est juste, elle est directe et compulsive. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Je le connaissais pas quand je lui ai proposé de faire le film.
Vous connaissiez son cinéma quand même.
Je connaissais bien sûr très bien son cinéma. Le choc absolu, c'était De la guerre, effectivement, qui est là pour le coup aussi un film complètement sauvage et libre et très intellectuel, mais aussi très érotique, très sensuel. C'est un film qui a été mal aimé, qui a été peu vu. Je pense que Bertrand en a souffert. Moi, pour moi, c'était un film monde. Moi, je voulais vivre à l'intérieur du film. Voilà, c'était évidemment, pour moi c'est un grand esthète déjà, c'est un cinéaste complexe qui, je pense, écrit des scénarios aussi en essayant que ce soit pas la photocopie d'autres scénarios qu'on a déjà vus. C'est déjà très précieux pour moi.
Qu'est-ce qui vous pousse à filmer des réalisateurs? Parce que quand vous filmez Bertrand Bonello, vous filmez quand même Bertrand Bonello, c'est-à-dire un réalisateur. Et dans le même film, on trouve aussi Herbert Schroeder, qu'on vient d'entendre d'ailleurs dans le rôle de l'analyste dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Et puis vous avez déjà fait le portrait de plusieurs cinéastes, Kenneth Anger, Koji Wakamatsu ou Kohei Oguri. Qu'est-ce qui vous pousse de ce côté-là à être un cinéaste qui filme des réalisateurs? Qu'est-ce que ça dit de votre cinéma?
Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait... le metteur en scène est quelqu'un qui, par définition, regarde les autres et n'est jamais regardé. Et effectivement, tourner la caméra vers quelqu'un qui n'est jamais regardé, qui donc est toujours à l'abri derrière sa caméra, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mettait dans un état de gêne, d'un léger inconfort et aussi d'un plaisir, je crois, à être regardé soudainement, qui me touche beaucoup. Et Bertrand, pour ça, s'est laissé regarder... Il a été un acteur incroyablement généreux.
Bertrand Bonello s'est laissé regarder, il s'est aussi laissé regarder en train de filmer, puisque dans le film il y a une séquence avec Isilde Bescot et Alex Descasse qui joue donc un film qui s'appelle Madeleine d'entre les morts, une séquence inspirée du vertigo d'Hitchcock. Le casting, c'est lui ou vous qui l'avez choisi?
Parce que c'est lui qui a tourné la séquence à l'intérieur du film.
Voilà, ce qui était un moment assez surréaliste puisqu'on était sur le plateau de mon film et qui dirigeait lui-même les acteurs, c'était un moment assez drôle. On a choisi ensemble, je pense que bon, c'était son choix parce que c'était ça vient d'un scénario de ce qu'il appelle ses films fantômes, puisque les cinéastes ont souvent des films fantômes, des films que vous n'avez jamais vus, mais que nous, on a parfois travaillé très longtemps, vécu avec, etc. Et lui, il a notamment trois films fantômes très importants, dont depuis, il a fait la structure de son exposition
au Centre Pompidou. Et les ateliers de la création pour France Culture dernièrement aussi.
Oui, voilà. Et Madeleine d'entre les morts était un des... Il m'a fait lire ces trois scénarios et c'était un des plus puissants et peut-être un des plus en rapport aussi avec le film qu'on avait commencé à faire ensemble. Donc on a choisi ensemble la scène et on a choisi ensemble le casting et c'était très... Il a aussi d'ailleurs utilisé les rushs de cette scène pour faire une installation qui était très belle aussi lors de
sa rétrospective au Centre Pompidou. Madeleine d'entre les morts est donc un hommage au vertigo d'Hitchcock. Je voulais savoir si ce film fonctionner aussi comme référence pour un architecte? Parce que dans le milieu du cinéma, c'est vraiment un film, on va dire, matrice. Mais dans le milieu des architectes?
Oui, bien sûr.
Aussi?
Bien sûr.
Des doublements?
Mais je vais revenir sur le dos rouge. Je ne l'ai pas vu, mais je vois que d'un seul coup, Géraldine Pellas participe. Pour moi, c'est un critère de qualité. C'est un critère d'excellence. Je suis un grand admirateur de Géraldine Pellas.
Actrice, très liée d'ailleurs au monde de l'art.
Oui, mais son père était...
Son père était un immense galeriste.
Un des plus grands galeristes français, décédé il y a quelques années. Mais Géraldine Pellas, figure à la fois très féminine, très sensible, marqué d'une grande profondeur, et qu'en même temps, moi, j'imagine, parce que un peu espiègle. Et je me dis que je suis très curieux, j'ai hâte de voir ce film de rouge, parce que je pense que Géraldine Pellas peut livrer un autre visage.
C'est ce qu'elle fait littéralement, puisqu'elle est l'autre visage d'un même personnage. L'historienne de l'art s'appelle Célia, et elle est doublement interprétée par Géraldine Pellas et Jeanne Balibar. Quel lien vous faites entre ces deux actrices pour que l'une soit, on va dire, le versant de l'autre, comme une sorte de dédoublement à la Buñuel et une dédoublement, bien sûr, à la Hitchcock? Antoine Barreau.
Parce qu'il les lie, c'est le personnage. J'ai pas essayé de les lier autrement. Je me méfie beaucoup, moi, de la cohérence. Ça, on s'ennuie vite dans la cohérence. Hein,
tout c'est la vitesse des imbéciles, la cohérence.
Voilà, bon...
Non mais c'est diabolique.
Oui, moi c'est sûr que j'aime l'incohérence, j'aime l'impureté, j'aime ça. Donc la raison m'aurait ramené à un personnage simple, interprété par une seule et même actrice. Et puis c'est vrai que j'avais envie d'aller au bout de cette idée. Je pense que
deux actrices pour un même rôle, c'est pas une référence à Buñuel pour vous?
Alors il se trouve que c'est le seul Buñuel que j'ai pas vu, moi qui aime énormément Buñuel. Alors évidemment, tout le monde en parle et je savais que ça existait dans cette obscurité.
Avec Carole Bouquet,
évidemment. Mais non, c'est pas du tout. C'est pas forcément une référence. C'est une liberté aussi. J'avais absolument envie de ça.
À quel moment du scénario une telle idée apparaît?
Très vite. Bon, évidemment, voilà, c'est aussi un personnage monstrueux, très
bien
clairement.
Bien entendu, puisque c'est un personnage double face.
Voilà. Mais j'aime aussi, d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez similaire dans mon premier film, dans Les Gouffres, où Mathieu Amalric revenait de son expédition avec un autre visage. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup, qui est de l'ordre de l'abyssal, quoi.
Alors, retour au dos rouge et retour à Vertigo, puisqu'il est aussi question dans le dos rouge d'une visite au musée. On se souvient bien sûr de la séquence très fameuse du musée avec Kim Novak, mais aussi celle de Pulsion de Brian De Palma, le syndrome de Stendhal de Dario Argento avec Asia Argento qui s'évanouit dans la galerie des Offices à Florence. Tous des cinéastes qui travaillent le film de genre, comme si la scène de musée était une sorte de séquence comme ça, matricielle pour le film de genre. Avec donc chaque fois cette idée du monde qui apparaît dans ces films. Vous, avec le dos rouge, comment vous vous inscrivez dans cette tradition? Est-ce qu'elle fonctionne d'ailleurs, cette tradition, pour vous?
Oui, elle fonctionne, bien sûr, mais...
Antoine Barreau.
Moi, je pensais aussi à La visite au Louvre de Straub et Vielle, qui n'est pas
sûr.
Du tout un film de genre, dont j'adore la frontalité et l'aspect complètement direct, sans fioritures, sans gras. C'est un film magnifique et drôle, d'ailleurs. Peut-être un des seuls films que j'ai eu vraiment clairement à l'esprit pendant la réalisation du film, c'était le film sur David Hockney, qui s'appelle The Bigger Splash, qui est un film des années 70, qui est un film absolument magnifique, dans lequel David Hockney joue son propre rôle. Et c'est un film extrêmement libre, extrêmement touchant aussi, et dans lequel il accepte de se montrer sous plein d'angles, y compris nu d'ailleurs. Et c'est pour un artiste aussi célébré, aussi respecté. Parfois, je trouve qu'on respecte l'art de façon complètement excessive, ou ça devient du formol, ça devient de la vitrine uniquement. Moi, j'aime beaucoup. Il y avait un documentaire sur Basquiat où on le voyait arriver chez des gens, ouvrir des livres d'art et tout graffité au marqueur. Et je trouvais ce rapport au livre d'art tout à fait direct et drôle et sain. Et David Hockney avait ce rapport-là avec lui-même, avec son œuvre dans le film. Et j'aimais ce rapport au corps aussi. Les peintres, les artistes ne sont pas que des purs esprits. Et c'était une des raisons pour laquelle c'était important aussi pour moi de montrer le corps de Bertrand.
De Bertrand de Bonnello. Émilie.
Dans le dos rouge, il y a beaucoup de scènes tournées au musée Gustave Moreau, qui vient d'ailleurs de rouvrir. Quelle place tient-il dans votre histoire personnelle et dans votre rapport à l'art?
Il y en a qu'une seule tournée au musée Gustave Moreau.
Elle est importante,
mais il y en a qu'une seule.
On voit très bien le musée.
Pour moi, c'est typiquement, c'est-à-dire que le film est évidemment un film sur la peinture, mais la peinture, c'est plein d'autres choses. C'est aussi là où elle est exposée. Et le film n'est pas un film que sur la peinture, c'est-à-dire cette toile-là, ce tableau, cette thématique, ce peintre. C'est aussi parfois sur le cadre. Moi, je sais que je dis souvent, ma mère m'a vraiment sensibilisé à la peinture, et mon père, qui est antiquaire, peut-être au cadre justement.
Et alors, la maison de Gustave Moreau, pour quelle raison?
Et la maison de
Gustave
Moreau,
elle-même, c'est incroyable comme
la maison de Gustave Moreau, typiquement, est un lieu dont où les toiles sont évidemment extraordinaires, mais où le lieu est largement aussi important que les toiles. C'est un lieu extraordinaire,
saturé.
Cet escalier absolument incroyable. C'est en plus c'est la maison où il a vécu, c'est son atelier, c'est beaucoup de choses à la fois. Et effectivement, c'est saturé d'œuvres partout. On voit dans chaque recoin du musée des dizaines et des dizaines de dessins qui s'ouvrent par tiroir, par palette, par panneau, par etc. Et l'autre chose qui me touche beaucoup chez Gustave Moreau, c'est l'inachevé. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse, l'inachevé, qui est quelque chose d'impossible par définition à faire au cinéma.
Et d'ailleurs, vous filmez une des toiles inachevées de Gustave Moreau.
Voilà, les Chimères. Et c'est quelque chose qui me bouleverse, l'inachevé. Je trouve le peintre, il laisse une place incroyable à celui qui regarde. Et voilà. Et en plus, il y a une mise en évidence de l'artifice dans l'inachevé que je trouve bouleversante.
Puisqu'on en est aux visites de musées, vous avez réalisé deux musées, Rudy Ricciotti. Quelle idée du musée on a quand on travaille, quand on est architecte? Il y avait le MUCEM et puis l'autre, c'est le musée...
L'agrandissement du Louvre, ouais. Par exemple.
L'agrandissement du Louvre aussi, oui.
Le dernier département de l'art de l'islam.
Ouais. Et puis le musée aussi Cocteau.
Oui, le musée Cocteau. Bah écoutez, il y a des musées narration et puis il y a des musées de présentation. Cocteau à Menton, par exemple, c'est un musée spécialisé sur l'œuvre de Jean Cocteau, puisqu'il y a une donation qui a été faite à la ville. Et le projet lui-même raconte un peu de manière onirique la première image que j'ai de Cocteau quand j'étais enfant, qui était La Belle et la Bête. C'était chevelure, tentaculaire. Et c'est ça qui a inspiré le projet. Donc il fallait pas s'en priver. On n'est pas obligé d'être tous dans l'obsession minimaliste. D'accord, enfin, vous savez très bien ce que j'en pense. Quoi.
Oui. Parce
que c'est une névrose globale, tu vois, qui est vraiment la part la plus morale, la plus moralisante de la création. Je dirais qu'il se crache, tu vois, dans la lagune, tu vois, décomposée du minimalisme, tu vois, ou alors dans celle de la lâcheté de la question conceptuelle. Donc, ouais, bon, le musée, regardez, le succès du musée à Marseille, c'est 4 millions de visiteurs.
Énorme, pas pour les expositions. Juste pour le bâtiment.
Écoutez, alors, il faut bien préciser...
Il faut bien préciser ça,
mais aussi dire que c'est pas facile de faire un musée anthropologique. C'est très compliqué, parce que c'est pas un musée d'art à Marseille. C'est pas pour défendre les conservateurs, que je connais pas vraiment plus que ça. On se côtoie même pas, d'ailleurs. Hein. Mais c'est difficile pour eux. Un musée anthropologique, c'est pas un cadeau. Bon, maintenant, vous parlez d'un musée d'un Gustave Moreau, c'est magnifique. J'ai vu un reportage dans la revue L'Objet d'art, je crois. J'étais émerveillé. Tu vois, ce 19e, c'est sublime, quand même. C'est très, très beau.
Des tableaux touche-touche, oui, sur plusieurs niveaux, et, avec un escalier
mais
monumental.
Mais l'idée que je me fais d'un musée, c'est qu'un musée a une double destination, une double responsabilité. La première, c'est d'être toujours un territoire politique. Et la deuxième, d'être un territoire populaire. Voilà, c'est très important. Et... c'est ça qu'essaye de faire, en tous les cas, c'est comme ça que j'essaie de travailler sur les trois musées que vous avez bien voulu citer. La responsabilité politique et la responsabilité populaire. Et cette jonction-là est absolument nécessaire pour faire stopper, j'ai envie de dire, la perte de crédibilité de la culture. Parce qu'aujourd'hui, un des maillons faibles, pour reprendre un terme de télé-réalité, de jeu, sous l'angle strictement politique, comme le dit le grand philosophe Jean-Paul Curnier, c'est que la culture est devenue le vecteur moralisant de la création. Et ça, c'est carrément assez navrant, voilà.
Une question, Émilie Chaudet.
Antoine Barraud, comme à tous nos invités depuis le début de la saison, nous vous avons demandé de venir avec un son. Voici ce que vous nous avez apporté.
ISI n'a pas rappelé?
Non.
Et Renard?
Non, pas encore.
Oh, ils sont tous pareils. Tant pis. Je vais essayer de le faire lire à New York. Nous partons demain.
Bonne chance là-bas.
J'ai laissé des pages et des pages à taper. Courage.
Merci. Il n'y a rien d'autre à poster que ces trois lettres?
Non.
D'accord.
Je n'ai pas eu le temps.
Identification de ce son, Antoine Barraud?
Documentaire, Agnès Varda, Delphine Seyrig, Sabine Mamou. C'est un film, je trouve, vraiment extraordinaire. Donc Delphine Seyrig n'apparaît que par la voix.
Bon, comme Charlotte Rampling dans votre
film. Voilà, comme Charlotte Rampling dans mon film. Vous m'avez demandé un son, donc j'ai tout de suite pensé à la voix de Charlotte Rampling, et du coup, à la voix de Delphine Seyrig, pardon, et du coup dans ce film-là. Parce que voilà quelqu'un qui, juste par quelques mots, n'est pas à l'image, mais alors l'image mentale dépasse tout. Et à l'image, par contre, on a Sabine Mamou, qui était aussi la monteuse d'Agnès Varda, qui a été la monteuse aussi de Lance Mann, de Demi, de Emmaüs Gurnet, de Jean, et qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup.
Vous choisissez vos actrices au son de leur voix. Quand on voit par exemple Jeanne Balibar dans le film, on ne peut pas faire l'économie de son phrasé. J'imagine que c'est très important pour vous. Vous les guidez aussi à l'intonation, Antoine Barraud?
Oh, c'est sûr que c'est très 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 important pour moi, pas seulement Jeanne Balibar, mais des acteurs comme Nicolas Maury, comme Pascal Grégory, c'est pour moi c'est des trésors nationaux, enfin c'est extraordinaire, je ne sais pas si c'est une spécificité française, en tout cas, il y a en France un vivier d'acteurs que moi j'appelle pour moi à musique qui ont donc ce phrasé, ce jeu absolument martien et complètement à des années-lumière du naturalisme, du réalisme à l'américaine et qui par je ne sais quel miracle fonctionne. Comment est-ce possible qu'une intonation comme celle de Jeanne Balibar ou comme celle de Nicolas Maury fonctionne? Je ne sais pas. Donc pour moi c'est de l'ordre du miracle.
Je me caressais à 10 ans dans les blocos, vous imaginez? Bon, ça fait pas de moi un fasciste quand même, hein?
Non.
D'accord, bon, merci de pas me faire un procès, mais...
Si je savais faire une phrase, j'en ferais une phrase. J'aime bien justement ce moment où les mots manquent.
Merci à nos invités. Rudy Ricciotti, votre pièce de théâtre manifeste Le béton en garde à vue apparue aux éditions Le Mieux. Antoine Barreau, Le dos rouge est déjà sorti en salle. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la vie et la mort, s'il te plaît, dis à maman que je pense à elle tous les jours.
Demain, il faudra attendre lundi. Ce sera une émission cinéma avec les réalisateurs Alain Chocard et Petr Vaclav. La désannonce, Elsa.
C'était Le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Émilie Chaudet, Aïssa Touenda et Elsa Béranger. Actualité culturelle supplément week-end, Benoît Lagan et Zoé Sfez. Chronique Thomas Claire, à la prise de son Jean-Guilain Meij et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, c'est toujours bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée, bon week-end à tous et à lundi.